nous comme orateur, l'organisateur de cette journée, Valérie Gonin. Je t'invite à t'approcher. Et donc, il vient de sortir aussi un livre sur des sujets pointus. Et on a la chance de l'avoir avec nous. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques... C'est quoi, une année, deux ans,
une année.
Il est beaucoup apprécié. Il a à cœur spécialement aussi la relation franco-suisse, l'implantation d'église. Donc on est très heureux et honoré de t'accueillir dans notre réseau. Et alors, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour Valérie. Merci pour ce qu'il a sur son cœur, ce que tu as placé de particulier. Merci pour ce qu'il vit, ce qu'il a à cœur aussi dans cette relation franco-suisse avec nous, avec d'autres. Bénis, Seigneur, l'œuvre de ses mains. Bénis ce qu'il entreprend pour toi. Et donne-nous des cœurs ouverts à t'entendre au travers de lui ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, ça va?
Oui.
Souvent on dit que je parle fort, que je n'ai pas forcément besoin de micro. Mais là je pense que c'est bien, hein, si c'est enregistré ou pour les personnes qui ont l'ouïe peut-être un peu plus fragile, je dirais. Levez la main, non je rigole. Je m'appelle Valérie Gonin, je viens du Coton-Neuchâtel, dans le Val-de-Travers. Qui ne connaît pas le Val-de-Travers ici? Ou qui ne sait pas où est le Val-de-Travers? Donc c'est entre Pontarlier et Neuchâtel, dans le Jura-Neuchâtelois, près de Fleurier. Fleurier, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc environ 1h15 d'ici. Je suis marié avec Aline, qui n'est pas là ce matin. Nous avons 3 garçons, dont 2 qui sont présents ici. Le petit dernier qui est resté avec ma femme. Et nous allons bientôt en accueillir un 4e. Donc ce n'est pas un 4e bébé qu'on va accueillir, on va accueillir un réfugié. Le Coton Neuchâtel recherche des familles qui accueilleraient des mineurs non accompagnés. Donc on va accueillir un jeune Afghan qui vient d'Afghanistan, qui a bientôt 15 ans. Et puis on va l'accueillir pour 3 ans, minimum 3 ans. Voilà, c'est des jeunes qui arrivent en Suisse après des longues péripéties. Et puis souvent ils sont entassés dans des centres d'accueil et c'est là que... J'allais dire que tous déglinguent, non pas forcément, mais c'est quand même délicat. Ils sont livrés à eux-mêmes quand même passablement. Le Coton Neuchâtel n'ont pas beaucoup de sous, donc ils font ce qu'ils peuvent, un minimum, mais finalement c'est jamais assez. Et le Coton cherche des familles d'accueil et on se dit que ça serait beau pour notre famille. D'un côté, offrir quelque chose à ce jeune et lui aussi qu'il puisse nous offrir quelque chose par rapport à toute la différence culturelle. Aussi pouvoir expliquer à nos enfants que la vie ne s'arrête pas à leur trampoline et à leur ballon de foot. Il y a aussi d'autres enfants, d'autres situations qui méritent notre attention. Sinon, à côté de tout ça, je suis pasteur donc d'une communauté dans le Val-de-Travers. Ma femme travaille comme infirmière. Et au-delà de tout ça, on a beaucoup de choses à cœur. On est impliqué justement dans le ministère Famille de Foi, où on va s'occuper de cette journée. J'ai aussi eu l'occasion d'écrire un livre. Donc pour ceux qui étaient là, il y a une année et demie, j'avais partagé un petit bout de mon témoignage. Ça s'appelle « Des racines dans le ciel ». Et c'est pardonner et se reconstruire après un drame familial. Donc ma famille a été victime d'un drame familial, vous pourrez le lire tout à l'heure. Je n'ai pris toute une série et puis finalement c'est pardonner et se reconstruire. Je parle de ce que j'ai vécu, de tout le chemin que j'ai fait avec le Seigneur, le pardon. Mais c'est vraiment un livre qui s'adresse, oui, au corps de Christ, mais davantage aux gens qui ne connaissent pas Jésus, ou qui luttent avec l'image d'un Dieu plus ou moins présent, plus ou moins lointain, plus ou moins distant. Et puis toute la notion de pardon et de résilience. C'est un bouquin qui fait 140 pages, donc on a fait exprès de mettre peu de pages, qu'il soit facilement lu. Et c'est un livre qui vaut 13 €. Donc à l'issue de la rencontre, je serai là-bas, je n'ai pris toute une série, c'est volontiers que je les dédicace, que je les signe. J'ai pris une boîte. Et puis juste une dernière information, je soutiens un ami au Sénégal. Je suis allé au Sénégal avec Frog Jeanneret, que vous connaissez, il y a 6 mois. Et là-bas, j'ai rencontré une personne qui va se former dans une école biblique, Jeunesse en Mission. Et forcément, c'est quelqu'un qui a très peu de moyens. Et puis j'ai dit que je suis d'accord de l'aider, mais dans ce sens-là, que ce livre est 13 €. Et si les gens veulent mettre un petit peu plus, tout le surplus ira pour cette personne. Genre, si quelqu'un met 15 € pour le livre, 2 € iront pour soutenir cette personne au Sénégal. Par expérience, de faire des appels de dons, des emails aux gens, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez cette personne, ça ne fonctionne pas. Mais si, au travers d'un livre, on peut bénir, on peut aider, il sera tout content et en plus, ça va bénir sa famille. Donc voilà, je me tiendrai tout à l'heure pour les vendre et même les dédicacer. Donc voilà, donc merci de l'invitation. C'est vrai que le Jura français, c'est des régions que je ne connais pas encore bien. Je trouve magnifique Salins-les-Bains. Je suis venu il y a une année, lorsque j'étais venu à Savigny. Et puis j'ai vu, il y a une forteresse au-dessus, c'est assez magnifique. Et puis j'avais beaucoup apprécié, c'est vrai que... C'est que je suis de plus en plus interpellé par rapport à la France, hein, aux relations franco-suisses. Je suis proche de Franck Jeanneret, hein, que vous connaissez. Avec lui, j'ai eu l'occasion de voyager. Et de plus en plus, le Seigneur me parle par rapport à la France. Donc, il me parle, il me met ce pays à cœur. Je n'ai pas encore de grands projets. Je dois faire un peu attention. Je suis quelqu'un qui aime les projets. Et je suis assez vite dans des projets. Et le Seigneur, c'est un, me dit plutôt, mais Valérie, est-ce que tu m'aimes ? Valérie, quelle est la relation que tu as avec moi? Et avant d'aller dans la prédication, j'aimerais interpeller l'Église, mais l'Église en général, c'est un verset que j'ai reçu il y a environ 2 semaines pour moi-même, mais forcément par extension à l'Église en général. Et puis ce matin, c'est beau parce qu'il y a un verset qui est sorti alors qu'on priait. Je vous lis ce verset. C'est de Cantique des Cantiques 2, le verset 8. « Écoutez, c'est mon bien-aimé. » C'est lui qui arrive, franchissant d'un bond monts et collines. On dirait une gazelle ou un jeune cerf. Le voici qui s'arrête derrière nos murs, cherchant à voir à travers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers le treillage. Il y a le bien-aimé, on pourrait dire qu'il y a Jésus qui gambade, qui nous cherche et qui se met derrière le mur et qui regarde au travers de la fenêtre. Et puis moi, à l'intérieur de cette maison, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cours à la fenêtre à accueillir mon bien-aimé ? Est-ce que je me mets à la fenêtre pour écouter ce que le bien-aimé dit ? Ou je suis affairé dans les affaires de ma maison ? Ou est-ce que je suis affairé au récurage ? Ou est-ce que je suis affairé à faire à manger ? Et là, je pose directement à l'histoire de Marthe et Marie. Hein. Il y avait Jésus, il y avait Marie qui avait saisi l'importance de prendre un temps privilégié avec Jésus. Et il y a Marthe qui poutçait. Marthe qui nettoyait pour accueillir Jésus. Alors que Jésus, il était là, puis il disait à Marthe, à Marie, « Marthe, je suis là. » Et le verset qui m'a quand même beaucoup interpellé ces temps, c'est ce texte dans Apocalypse 3, 2-8, qui nous parle de l'église d'Éphèse. Ce matin, je vais essayer de ne pas trop faire long, parce que ce n'est pas tout à fait ce que je souhaitais partager, mais ce texte est important. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. C'est l'Église un petit peu parfaite quand même. Ils ont la bonne doctrine, ils ont été persévérants, ils ont cherché le cœur de Dieu, ils ont éprouvé les gens qui se disaient apôtres. Moi, je rêverais presque d'avoir une communauté de ce genre ou d'avoir des gens avec de telles références. Et pourtant, Jésus va dire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ce texte m'a énormément interpellé. En lien avec ce texte de Cantique des Cantiques 2, verset 8. Jésus qui vient, qui est au bord de la fenêtre, et moi à l'intérieur de la maison, je ne le remarque même pas. Je prépare le repas pour Jésus. Je prépare le ménage pour Jésus. Alors qu'il est là à la fenêtre, il dit, mais Valérie, je suis là, c'est le moment. Et puis ça m'a quand même beaucoup interpellé par rapport à mon fonctionnement. J'aime faire des choses, je suis un homme d'action, mais je me suis dit, mais si le Seigneur se retirait de tout ce que je fais, est-ce que je le remarquerai même ? Si le Seigneur commençait à prendre de la distance par rapport à tous mes projets, est-ce que j'en aurais conscience ? Ou je suis tellement de l'action, tellement des bonnes œuvres, que j'en perds même ma relation avec Dieu ? Et ces temps, je suis interpellé. J'aime beaucoup la prière, je suis un homme de prière. Et ces temps, je me suis fait prendre dans tellement de projets. Je suis dans tellement de trucs à la fois. D'un côté, c'est génial. Et puis je me dis, mais où en est ma relation avec Jésus ? Jésus qui dit, mais souviens-toi comme c'était au début. Et je me dis, mais finalement, comment était ma relation avec Dieu au début? Comment est-ce que c'était au début? Alors, on peut culpabiliser, on peut se dire, les temps ont changé, ma vie a changé, mais ce texte m'interpelle. Change, sinon je vais retirer ma présence de ta vie, de ton œuvre, de ton église. Je pense que ce texte m'interpelle sur, finalement, sur l'action, sur le faire, sur tout ce que le Seigneur me demande. Valérie, quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer les autres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Seigneur, ma prière ce matin, ce n'est pas de culpabiliser. Ma prière, Seigneur, c'est que je puisse toujours plus comprendre qui tu es, que ma relation avec toi soit toujours davantage une priorité, que mon amour pour toi puisse être comme de le cotique des cotiques débordant, et que ma relation avec toi soit une priorité absolue. Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie, dans nos vies, qui nous poussent à l'action, qui nous poussent à faire des choses avec le risque d'oublier qui tu es, Seigneur. Merci de nous interpeller encore ce matin. Et ma prière, Seigneur, c'est que ce que je vais raconter puisse interpeller, puisse toucher, puisse transformer. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de parler de la rencontre avec Dieu. J'avais prêché il y a une année de cela par rapport à un texte, le roi Josaphat qui, suite à une situation compliquée, s'était mis à la recherche de Dieu. Et ce matin encore, j'aimerais aller dans cette notion de rencontrer Dieu, parce que pour moi, la rencontre avec Dieu, le fait de toucher le cœur de Dieu, c'est une priorité absolue. Je suis un jeune chrétien, non. J'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'avais 17-18 ans. À l'époque, j'étais amoureux de Jésus. J'étais prêt à tout faire pour Jésus. J'étais prêt à donner ma vie pour Jésus. Un petit peu comme Pierre. Puis une semaine après, je reniais, etc. Mais la recherche du cœur de Dieu, de mettre en priorité la rencontre avec Dieu a toujours été fort dans mon cœur. Alors c'est vrai que parfois les circonstances me détournent de cela, mais au fond de moi, il y a un désir cher de chercher la présence de Dieu. Est-ce possible de rencontrer Dieu? Avez-vous déjà rencontré Dieu? Or, c'est vrai que si nous en sommes ici ce matin, c'est que nous avons rencontré Dieu. Mais la question, c'est qu'en est-il de votre relation avec ce Dieu-là? Est-ce que c'est une relation du matin où on tire le petit feuillet avant d'aller au travail? Est-ce que c'est une relation du dimanche matin? Ou est-ce que c'est une relation passionnante? Une relation bouleversante, où je fais une priorité absolue que de rencontrer le cœur de Dieu. Au travers de toute la Bible, on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui ont cherché le cœur de Dieu. À des moments précis, ils se sont mis en marche pour rechercher le cœur de Dieu. Alors c'est vrai que lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsqu'on passe par des temps d'épreuve, c'est peut-être plus facile de rechercher le cœur de Dieu, mais je voudrais aussi interpeller ceux qui ont des vies peut-être plus faciles. Amen pour ceux qui ont des vies géniales. Amen pour ceux qui ont eu des parents super, qu'ils ont bien enseigné, qu'ils ont aimé, qui ont peut-être moins d'épreuves que certaines personnes. C'est génial. Alléluia. Nous, on a des enfants, on aimerait les préserver de plein de choses. Alors d'une part, ils ne vont pas être préservés de tout. Et j'espère qu'on arrivera surtout à leur transmettre la passion du Seigneur. Que ce n'est pas que de les épreuves qu'on doit se mettre en marche pour rechercher Dieu. Moïse, David, Élie, Jésus, Paul... Toutes ces personnes ont mis du temps, ont pris de la peine pour rechercher le cœur de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous faire envie et vous encourager à aller chercher le cœur de Dieu. Parce que forcément, il y a deux motivations de le fait d'aller rechercher Dieu. Il y a, comme je l'ai dit, les difficultés qui parfois nous submergent, où seul Dieu peut faire la différence. Et puis il y a aussi parfois, quand tout semble bien aller, quand les projets roulent, quand les gens sont contents de vous, quand tous sont bien allés, et puis le Seigneur dit, mais il y a plus encore. Reviens près de mon cœur. Reviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi lorsque tu étais capable de prendre une heure pour venir me chercher. J'ai fait une école de prière un jour avec une personne qui s'appelle Michael Kimouli, pour ceux qui connaissent. Il nous enseignait à prier, une personne qui venait d'Ouganda, qui avait appris à prier. Et le gars, il arrivait à prier 5-6 heures par jour. Alors, ce n'était pas une prière légaliste, mais il était capable de se tenir de la présence de Dieu des heures par jour. Et lorsqu'il parle de ça, il y a des larmes qui coulent de ses yeux, tellement, tellement c'est génial, quoi. Ce n'était pas le côté mortifiant ou « Oh Seigneur, j'ai encore pété ». Il y avait une vie qui jaillissait de cette personne. Et cette personne m'a fait envie. Et j'ai appris à prier. J'ai appris à prier des heures. Alors plus maintenant, le temps est limité, mais j'ai appris à entrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on apprend à entrer dans la présence de Dieu, il se passe des choses. Dieu, il parle. Dieu, il transforme. Dieu, il convainc. Et puis ce matin, je voudrais vous partager un petit peu ces pensées sous la forme d'un voyage. Un voyage, on va repartir de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. Et c'est une histoire qui est extrêmement connue. L'histoire de Naaman, le Syrien. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire de Naaman. Et je vais essayer d'être un petit peu plus court que ce que j'avais prévu. J'ai déjà pas mal parlé. Mais c'est Naaman le Syrien qui a un problème insoluble et qui va se mettre en route. Qui va se mettre à la recherche du cœur de Dieu. Et on va voir que Naaman va se heurter à 4 obstacles principaux qu'il y a dans nos vies lorsqu'on se remet, qu'on se met en voyage, lorsqu'on se met en marche. Donc 2 Rois 5, le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme qui était un vrai héros était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnier une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite lui avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je te vois, mon général Naaman, avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Imaginez le contexte, hein, ils étaient en guerre. T'as le général ennemi qui vient. Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi ?» avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens. Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Alors, je vais passer par-dessus certaines choses. On sait que la lèpre, c'était une maladie grave. C'était une maladie qui amenait d'autres souffrances. C'était une maladie qui amenait la mort. Et puis, Naaman, autant puissant qu'il soit, autant glorieux, il avait toute la gloire, ben, il était devant un problème insoluble. Naaman a besoin de rencontrer Dieu. Naaman a besoin de toucher le cœur de Dieu. Et je ferai juste une petite parenthèse sur cette fille, hein, cette fille qui avait toutes les raisons du monde de détester cette personne, qui avait toutes les raisons du monde de haïr cette personne, de souhaiter sa mort. Et cette petite fille qui va dire, mais Naaman, monsieur Naaman, si vous pouviez aller voir le prophète en Israël, vous seriez certainement guéri. Et ce matin, j'aimerais me mettre dans le rôle de cette petite fille qui vous interpelle par rapport à la rencontre du cœur de Dieu. Naaman va se mettre en route pour aller toucher le cœur de Dieu. Naaman ne connaissait rien au Dieu d'Israël, il connaissait simplement la dureté de ses propres dieux. À l'époque, on savait que les dieux ils étaient exigeants, les dieux ils demandaient beaucoup, et Naaman il va rencontrer Dieu, il va rencontrer le prophète, avec tout son arrière-plan religieux, avec toutes ses pensées qu'il a de la divinité, avec toutes les pensées qu'il a de ses propres dieux. Et au travers de ce voyage, Naaman a dû batailler contre 4 domaines. Et pour moi, c'est un peu les 4 domaines principaux qui nous empêchent ou parfois qui nous poussent plus loin de la présence de Dieu. Le premier domaine, c'est la notion du temps. De rencontrer Dieu, ça prend du temps. Qui est-ce qui a du temps ici? Pas beaucoup de monde. Il y a le regard des gens. Qu'en est-il du regard que les gens peuvent avoir sur ma vie par rapport à l'argent, par rapport aux finances? Et le quatrième point, j'ai marqué surprise. C'est une surprise que je garde pour la fin. Naaman, il entreprend un voyage de plusieurs semaines. Tellement il s'attend à Dieu, tellement il a besoin du Seigneur, qu'il est prêt à sacrifier ses vacances annuelles. Naaman, c'était un homme occupé, c'était un homme qui faisait tellement de choses. Et il met une parenthèse dans son agenda et il part à la rencontre de Dieu. De rencontrer Dieu, d'aller à sa rencontre, ça prend du temps. De rencontrer Dieu, ça prend du temps. De mettre 2 heures de temps de l'agenda pour aller à la rencontre de Dieu, c'est difficile. Je vais partir au début c'était 3 jours, maintenant c'est plus que 2 jours en retraite personnelle d'ici 10 jours. Mais au début c'était, je voulais faire 5 jours. Après j'ai vu l'agenda, c'était plus que 3 jours. Et là, ça va plutôt être 2 jours. Et j'espère pouvoir maintenir 1 heure de temps. Non, je rigole un peu. Mais j'espère pouvoir maintenir 2 heures. L'agenda, c'est quelque chose de dur. Les rendez-vous, les attentes, les besoins, aussi mon besoin d'être valorisé, parce que c'est toujours valorisant d'avoir plein de trucs à faire. Mais un mal, la rencontre que Dieu me propose. Ça peut même expliquer des choix financiers. De plus en plus de gens dans ma région, des jeunes. À Sainte-Croix, pour ceux qui connaissent, il se passe vraiment un réveil spirituel fort d'un groupe de jeunes. Et ils sont 8 responsables qui travaillent dans le séculier. Et la plupart de ces responsables ont choisi de travailler à 80% et ils mettent 20% de leur temps pour rechercher le cœur de Dieu. 20% de leur temps pour s'impliquer dans ce que Dieu est en train de faire. Alors on pourrait dire, voilà, ils sont célibataires, ils n'ont pas de famille, on peut très bien vivre avec un 80%. Je pense que c'est vrai, mais au-delà de cela, il y a une priorité absolue que de rechercher le cœur de Dieu, que de mettre du temps de la présence de Dieu. Naaman met du temps à part pour aller rechercher le cœur de Dieu. La deuxième chose, c'est par rapport au regard des gens. Alors imaginez juste le contexte. Naaman, c'est le général qui allait ravager le pays d'Israël. Ils ont tué une quantité de gens impressionnants. Ils ont même enlevé des petites filles pour en faire des servantes. Et puis Naaman, il va avec sa cohorte. Et il traverse le pays d'Israël pour aller rencontrer le roi. Imaginez juste le regard des gens. Quel était le regard de tous ces gens qui voyaient le général ennemi traverser son pays pour aller je ne sais où? Imaginez le regard des gens. Imaginez tout le mépris. Imaginez toutes les moqueries. Imaginez même tous les traquenards pour essayer une fois pour toutes de tuer cette personne. Quand j'étais petit, mes parents nous forçaient à aller le dimanche à l'église. Qu'on ait eu un mariage le samedi soir, qu'on soit malade, d'aller le dimanche à l'église, c'était obligatoire. Et je me rappelle qu'on descendait avec notre voiture dans ce village et tout le monde regardait la famille Gonin. Il y avait les gens qui s'amusaient en vélo dans le quartier et la famille Gonin qui devait aller au culte. Et je me rappelle que pour moi, c'était tellement affreux ce regard des gens, les gens qui se moquaient, les gens qui rigolaient. Parce que les Gonins, ils allaient dans cette église un petit peu bizarre. Waouh, c'est lourd le regard des gens. C'est pas évident à gérer. Vous êtes invité à un souper et vous déclinez l'offre parce que vous avez agendé le fait de rechercher la présence de Dieu. Waouh. Et en plus, vous le dites aux gens. Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Quel est le regard que les gens ont sur vous? Lorsqu'on va rechercher la présence de Dieu, lorsqu'on se met en mouvement pour le Seigneur, lorsqu'on met du temps à part, les gens vont vous regarder bizarrement. Lorsque vous choisissez de ne pas bosser à plein temps pour avoir du temps pour la recherche du cœur de Dieu, les gens vont vous regarder. Lorsque vous prenez des choix de vie un petit peu bizarres dans le sens de rechercher Dieu, les gens vont vous regarder. Et pour moi, ce n'est pas toujours évident le regard que les gens ont sur moi. Mais Naaman a fait fi de tout cela tellement son cœur était de rencontrer Dieu qu'il a passé tout droit. Qu'il a passé tout droit, indépendamment du regard que les gens avaient sur eux. Alors, j'aimerais qu'on me comprenne. Avec mon épouse, nous avons à cœur le village dans lequel nous habitons. Nous sommes impliqués dans ce village et nous ne sommes pas juste des extraterrestres. Les gens nous apprécient, certains peut-être moins, mais il y a un équilibre entre gérer le regard des gens parce qu'on prend des choix un peu différents et tout de même d'être impliqué dans le village et même être apprécié dans le village et même travailler au bien de ce village. Le troisième point, c'est la notion de l'argent. Naaman, il connaissait seulement ses propres dieux, des dieux qui étaient exigeants et des dieux qui ne donnaient rien. Pas étonnant que Naaman ait pris une si colossale somme d'argent. 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et des habits. Naaman pensait qu'il allait influencer le Dieu d'Israël avec toute sa panoplie, avec tout son argent. Et cette notion d'argent me parle par rapport à tout ce que je fais, à toutes mes bonnes œuvres. Combien de personnes ici vont parfois dans la présence de Dieu en disant « Mais Seigneur, avec tout ce que j'ai fait cette semaine, avec tout ce que j'ai prié cette semaine, avec toutes les bonnes œuvres que j'ai faites, je pense que tu vas toucher mon cœur. Je pense qu'il va se passer quelque chose. » Waouh. On vit des difficultés avec un de nos enfants qui a justement une forme de handicap social. Et combien de fois je vais dans la présence de Dieu et je dis « Mais Seigneur, on a tellement investi dans la prière. » On a tellement investi de ton œuvre. On a tellement fait de belles choses. On a tellement fait ci, fait ça. Et notre fils, il est toujours en souffrance. Pourquoi, Seigneur? C'est pas juste. Et combien de fois on a voulu faire mi-tour avec le cheval? Mais Seigneur, c'est pas juste. On a fait tellement de belles choses. Alors là, je provoque un peu, parce que de toute façon, on ne fait pas des belles choses, on est d'accord. Waouh. Puis Dieu qui dit, mais continue à marcher. Ton argent, on verra plus tard. Ton argent, je n'ai pas besoin. Tes bonnes œuvres, je n'ai pas besoin. On le verra dans le texte. On verra qu'Élisée, il a même pas touché à ces bonnes choses. Tellement il voulait que Naaman rencontre la grâce de Dieu. Et vous savez, pour cette journée avec les enfants avec handicap, on a fait venir une personne qui vient de Californie, de Reading. C'est de l'église Bethel Church, pour ceux qui ont connu. Et c'est une personne qui a vraiment reçu quelque chose de fort pour la guérison des enfants qui souffrent spécialement d'autisme. Et lui-même a un enfant d'une chaise roulante. Lui-même, il a une fille qui est lourdement handicapée d'une chaise roulante et lui-même prie pour les malades. Lui-même voit des guérisons. Lui-même encourage les chrétiens. Ouais, mais c'est pas tes bonnes œuvres qui vont toucher Dieu. C'est pas ta vie de prière qui va toucher Dieu. C'est mon amour pour toi. Et c'est tellement bouleversant de ma vie d'entendre ça. Tes prières, Valérie, c'est pas ça qui compte le plus. C'est ma présence et je souhaite te guérir parce que je t'aime. Mais viens aussi toucher mon cœur. Viens chercher dans ma présence la guérison. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner de la peine. Mais je crois que les bonnes œuvres sont une conséquence de la rencontre avec Dieu. Que tout ce que je fais de bon, c'est une conséquence de ma rencontre avec le Seigneur. Rencontrer Dieu va peut-être toucher les finances. Peut-être que ça va impliquer une baisse de pourcentage. Peut-être que ça va coûter une sortie entre amis. Peut-être que ça va vous conduire à baisser vos heures à l'usine pour gagner peut-être moins, mais avoir plus de temps dans la recherche du cœur de Dieu. Naaman, jusqu'ici, il va apprendre trois choses. Il va apprendre que pour rencontrer Dieu, il faut mettre du temps à part. Ça, c'est « on n'y coupe pas ». Il faut mettre du temps à part. Pour rencontrer Dieu, il faut être prêt à être incompris. Il faut être prêt à ce que certaines personnes s'opposent à vous, se moquent de vous. Et pour rencontrer Dieu, il faut comprendre que nos bonnes œuvres n'ont rien à voir avec lui. Dieu, ça ne l'influence pas, nos bonnes œuvres. C'est pour ça que c'est comme ça difficile, certains, quand ils vont à Dieu avec toutes leurs bonnes œuvres, et puis que Dieu ne leur répond pas, c'est souvent des gens qui lâchent. En disant, mais avec tout ce qu'on a fait de bien, Dieu, tu ne me touches pas. Et c'est souvent des gens qui prennent du recul avec la foi. Et c'est difficile lorsque quelqu'un est touché par Dieu alors qu'il ne mérite rien humainement. C'est des gens qui ont des vies pas possibles et ils sont touchés par Dieu. Et on se dit, mais c'est pas possible. Celui-là, il est touché par Dieu. Alors qu'on connaît sa vie, c'est pas possible. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et puis j'aimerais parler du quatrième point, le point peut-être le plus important, et c'est la suite du texte, les versets 9 à 13. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, Labana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas y plonger ? Ne pourrais-je pas y plonger pour être purifié ? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent : Maître, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? De plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Naaman descendit donc au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Plus de poils, plus rien. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et lui dit, et la suite de l'histoire, vous pourrez la lire. Pour rencontrer Dieu, ça pour moi c'est le point le plus important. Pour rencontrer Dieu, il faut mettre ses propres attentes de côté. Pas celle de rencontrer, mais celle de la façon dont Dieu souhaite nous rencontrer. Naaman est arrivé au sommet de la montagne. Naaman a entrepris un long voyage. Naaman, jusqu'à ce point, il a tout fait juste en quelque sorte. Il a mis du temps à part. Il a géré le regard des gens. Il arrive enfin à l'aboutissement de son périple. Naaman, il repart fâché. Combien de fois dans ma vie ça m'a fait le coup? Je souhaite rencontrer Dieu, mais j'aimerais qu'il me touche à la façon dont j'ai décidé qu'il devait me rencontrer. Et Dieu ne me rencontre pas de cette façon, et je repars fâché, en disant, mais Seigneur, c'est pas juste. Combien de chrétiens connaissez-vous qui sont sûrement hors de nos communautés, qui sont de la nature, pourraient s'identifier à ça? Qu'ils ont mis des attentes, qu'ils avaient des attentes, qu'ils ont fait plein de choses, et que finalement Dieu les a déçus. Les gens les ont déçus, mais c'est surtout Dieu qui les a déçus. Naaman, il repart furieux. Naaman, à ce moment-là, il est au même stade que s'il n'avait rien fait. Il est toujours autant malade que lorsqu'il était en Syrie. Il est toujours autant souffrant que lorsqu'il était en Syrie. Et pourtant, Naaman, il repart. À ce moment-là, Naaman, il est dépouillé. Il est frustré. Il est fâché. Ses attentes personnelles lui ont quasi fait manquer quelque chose d'important. Être touché par Jésus, oui, je veux, mais à condition qu'il me touche de cette façon-là. À condition qu'il vienne vers moi, qu'il me frotte. Naaman pensait que le prophète allait le masser, qu'il allait invoquer l'Éternel son Dieu, qu'il allait le plaindre. Et Élisée n'est même pas allé le saluer. Elle va te plonger 7 fois et ciao. C'est un peu brusque comme réponse, mais Dieu voulait le rencontrer. L'œuvre du Seigneur, elle va souvent à l'encontre de notre bon sens. Dieu veut clairement séparer notre bon sens et son bon sens. Vous savez, Naaman va dire, mais l'Amana le Parpar valent bien mieux que le Jourdain. Le Jourdain, il faut savoir que c'est une rivière qui est, lorsqu'il pleut, qui est boueuse. Hein. Donc, c'est une rivière qui est propre, mais lorsqu'il pleut, elle devient brune. Parce que c'est une rivière de plaine, il y a les alluvions qui viennent, le sable, et elle devient vite boueuse. Par contre, l'Amana et le Parpar, les deux rivières que Naaman décrit, ce sont des rivières de montagne, un petit peu comme le Rhône en Suisse. Une rivière qui vient directement des montagnes et qui est toujours belle, qui est toujours pure. Et Naaman va dire, mais ces deux rivières qui sont pures de mon pays, certainement qu'elles sont bien plus propres que ce Jourdain qui est boueux. Et Naaman, là, il ne va pas comprendre. Et il va repartir en étant frustré. Que dire de l'œuvre de la croix? À ce moment-là, Naaman, c'est comme s'il était au pied de la croix de Jésus. Puis il dit, mais la croix, c'est pas possible, Seigneur. C'est à l'encontre du bon sens. Le Fils de Dieu qui meurt en croix, c'est à l'encontre du bon sens. C'est pas possible. De me tremper dans cette rivière, c'est à l'encontre du bon sens. Mais c'est pas possible. Et finalement, on voit que Naaman va obéir, va écouter ses serviteurs. Et puis, il va aller dans la rivière. Et puis, il va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Cette histoire, elle me parle d'un parcours de prière afin de rencontrer Dieu, rencontrer le véritable Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu, c'est un claquement de doigts. Seigneur, guéris-moi, amen. Seigneur, bénis-moi, amen. Et parfois, la rencontre avec Dieu, ça prend du temps. C'est exactement comme la rencontre les uns les autres. On se connaît très peu. Je ne vous connais pas. Donc on peut serrer la main, bonjour, ça va, super. Mais ça veut prendre du temps à se rencontrer, à partager. Ça prend du temps. C'est obligatoire. On voit que Naaman, il a mis du temps à part. Il a mis du temps à part, Naaman. Il a fait fi du regard des gens. Il s'est rencontré que ses propres finances n'avaient rien à voir avec la guérison divine, avec la rencontre avec Dieu. Et on voit que l'œuvre de Dieu allait souvent à l'encontre de notre bon sens. Et combien de personnes ici ont parfois été frustrées contre Dieu, sont même peut-être fâchées contre Dieu, parce que vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas encore rencontré. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, donc vous priez encore plus, vous jeûnez encore plus, et puis la frustration ne fait que d'augmenter. Se pourrait-il que Dieu vous dise, mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtez de faire, et mettez-vous juste à mon écoute. Se pourrait-il que Dieu dise ça ce matin à plusieurs personnes? Arrêtez-vous et mettez-vous à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus vous impliquer dans la communauté, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que demain, il ne faudra pas aller au travail. Mais peut-être dans notre façon de faire, dans notre façon d'imaginer la rencontre avec Dieu. Que Dieu dit à plusieurs personnes, mais arrêtez-vous. Vous avez tout fait juste, vous êtes au bord du Jourdain. Et puis là, il faut descendre dans le Jourdain. Là, il faut saisir ce que l'Esprit de Dieu souhaiterait vous dire. J'aimerais qu'on termine avec un petit moment de silence et j'aimerais prier, j'aimerais qu'on communique une pensée par rapport à cette communauté, mais pensez à vos propres vies, par rapport à la rencontre avec Dieu. Où en êtes-vous? Êtes-vous prêt à libérer du temps? Êtes-vous prêt à renoncer à vos bonnes œuvres comme un moyen de pression pour le Seigneur? Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont tout fait juste, qui se sont mises en marche, qui ont mis du temps à part, qui ont dû gérer le regard des gens. Et malheureusement, Seigneur, ce n'est pas souvent les païens, mais c'est peut-être des gens même de notre propre église ou même de nos voisins qui nous ont attaqués, qui nous ont dit, mais et qui sont là au pied du Jourdain, même au pied de la croix, et qui disent, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et qui sont en train de repartir frustrés, qui sont en train de repartir fâchés, qui ont mis de la distance entre toi et eux-mêmes. Seigneur, il y en a tellement. Moi, dans ma vie, je vis ça parfois. Si tant je suis même moi-même dans ce cas-là, Seigneur. Et je sais qu'il y en a plein dans ce cas-là. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses parler à ces gens, que ces personnes puissent s'arrêter et écouter ce que la voix de l'Esprit dit. Si Naaman n'avait pas écouté ses serviteurs, alors qu'il n'avait même pas à les écouter, il serait parti fâché, il serait parti frustré. Peut-être même que la petite fille y aurait passé, on ne sait pas. Ma prière, Seigneur, c'est que toutes ces personnes puissent être interpellées ce matin par toi, Jésus. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu donnes aussi à cette Église un cœur toujours plus grand pour te rechercher. Toujours plus grand pour te rechercher. Seigneur, merci pour les bonnes œuvres que tu as préparées pour cette Église. Et en priant pour cette Église, je voyais, pour ceux qui connaissent Astérix, à un moment donné, dans le dessin animé, on voit que les Romains, ils arrivent à un endroit, et puis ils plantent, je ne sais pas comment on appelle, un bâton, c'était, je crois, les signes de la victoire, je ne sais plus. Hein, quelqu'un sait ce que c'est ? C'est ce truc qu'on plantait, que ça voulait dire que c'était un territoire maintenant qui appartenait à l'étendard. C'était même plus qu'un étendard. Et je voyais qu'un étendard avait été planté dans cette région. Et dans le dessin animé d'Astérix, on voit que l'étendard se plante et ça se fissure tout autour. Et c'était vraiment la pensée pour cette communauté qu'un étendard a été planté dans cette région, dans cette région de Mouchard, mais peut-être au-delà. Et qu'il y avait des fissures qui avaient été faites. Peut-être que c'est des fissures qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu, mais spirituellement, des fissures ont été faites dans le monde spirituel. Et il y a l'étendard qui est planté, donc sous l'étendard, on le voit bien, mais au-delà, il y a des fissures qui ont été faites. Et je crois vraiment que c'est une interpellation pour cette communauté à persévérer. À persévérer. C'est qu'il y a des moments peut-être où on se dit, mais Seigneur, où sont les promesses ? Seigneur, où sont les promesses que tu nous avais faites ? Mais l'étendard, il a été planté et des fissures ont été faites. Et ma prière, Seigneur, c'est que pour cette Église, que les gens puissent voir les fissures qui ont été faites. Les fissures dans ce sol aride qui ont été faites. Et ma prière, Seigneur, que les bonnes œuvres que tu as préparées, c'est des œuvres qui vont se faire dans ces fissures en premier. Comme l'été, quand il y a des graines qui tombent, c'est dans les fissures où il y a de l'eau que la vie, elle va jaillir. Et tu donnes à l'équipe d'ici, à toute l'équipe, à l'Église, cette capacité de voir les fissures qui ont été faites, ces brèches qui ont été faites, et c'est là les bonnes œuvres que le Seigneur vous demande de faire. Seigneur, tu parles à cette Église par rapport aux bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance. On peut lancer des graines partout, mais si elles ne tombent pas dans les fissures, ces graines ne vont pas pousser. Et Seigneur, tu donnes un discernement particulier aux responsables, un discernement particulier aux personnes qui portent cette communauté, de voir les brèches qui ont été faites et vraiment à investir du temps, de l'énergie, des moyens de ces brèches qui ont été faites. Seigneur, je prie pour toute cette région. Je prie pour toute cette région de la France, Seigneur, du Jura français. Seigneur, on pourrait dire que c'est difficile, il y a plein de catholiques, mais pour toi, Seigneur, ce n'est pas difficile. Pour toi, Seigneur, c'est des gens que tu aimes. Pour toi, Seigneur, c'est une région que tu aimes. Tu as payé le prix, Jésus, pour tous les habitants de cette région. Et ma prière, c'est que tu puisses donner aussi un zèle nouveau à toutes ces personnes, de la prière, de l'intercession. Et Seigneur, surtout que ces gens ici puissent aimer les voisins, puissent aimer leurs voisins, puissent aimer les habitants. Et il y a vraiment un encouragement aussi à ne pas dire, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Ne dites pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. Jésus-Christ a payé le prix. Ce sont des êtres humains avant tout. Certes, certains sont marqués, mais ce sont des êtres humains avant tout. Et Jésus a payé le prix. Et Seigneur, tu encourages vraiment cette Église à persévérer et à continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.